Reportages, débats, interviews, le magazine du samedi, le rendez-vous hebdomadaire de la rédaction de Cocktail FM, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine de la rédaction. Ce matin, nous nous poserons une question: quel avenir pour le nucléaire après Fukushima? Un débat qui s'est tenu à la Tour de la Liberté de Saint-Dié-des-Vosges. C'était hier soir à l'initiative de l'association Espace 88. Un débat d'actualité puisque un peu plus tôt dans la journée, le chef de l'État Nicolas Sarkozy se déplaçait dans la Drôme avec un discours sur la défense du modèle français dans l'indépendance énergétique. Une verve vigoureuse pour défendre la filière nucléaire. La polémique s'est déjà engagée sur fond de campagne présidentielle, bien sûr. Pendant ce temps-là, à Saint-Dié, on s'interrogeait simplement sur l'avenir du nucléaire après Fukushima, devant une salle comble. Trois intervenants dans ce débat: Bertrand Barré, qui porte à la fois la blouse blanche du scientifique issu du canal historique du CEA, où il est entré en 1967, et le costume de conseiller d'Areva. Il est aujourd'hui retraité, peut-être à l'image du combustible, puisqu'il enseigne à l'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires. Il a introduit le débat hier soir par une explication de ce qu'est le nucléaire aujourd'hui. Christian Pierret, faut-il le préciser, est actuel maire de Saint-Dié, qu'il a enrichi de la mention des Vosges. Il est aussi président de la Fédération des maires des villes moyennes et ancien ministre de l'Industrie du gouvernement Jospin. Dans son livre France 2012, Refusons le déclin, il s'est livré à un plaidoyer étayé pour le maintien d'une industrie nucléaire. Enfin, Yann Verling est ancien secrétaire national des Verts, engagé dans la cause écologique depuis 1988. Il est l'actuel porte-parole du MoDem et pour lui, ce changement de bord politique n'implique pas un changement de philosophie mais plutôt un changement de méthode, et il milite pour une sortie raisonnée du nucléaire. Voici donc dans ce numéro du Mac du samedi les meilleures minutes d'un débat qui a commencé donc par une conférence. Qu'est-ce que le nucléaire aujourd'hui après Fukushima? Bertrand Barré.
En 2000, on était 6 milliards d'êtres humains et ensemble, on a consommé en énergie dite primaire, c'est-à-dire mesurée le plus en amont dans la chaîne, on a consommé l'équivalent de 10 milliards de tonnes de pétrole. En 2009, on était 6,8 milliards d'êtres humains et on était passé à 12,2 milliards de tonnes d'équivalent pétrole. Ça veut dire deux choses. D'abord que la croissance démographique, même si elle se ralentit, elle est encore au rythme de 80 millions d'hommes de plus chaque année sur Terre, hein, une Allemagne de plus chaque année, et que la consommation d'énergie a continué à croître à un rythme double de la croissance démographique. Et puis vous savez que cette année, on est 7 milliards. Ça continue. Les grands combustibles fossiles assurent plus de 80% de la consommation d'énergie mondiale. Les renouvelables ont un total de 13%, ce qui a l'air déjà pas mal. Mais il faut voir que dans ces 13%, vous avez 10% qui est simplement ce qu'on appelle la biomasse traditionnelle, c'est-à-dire le bois de feu qu'on va ramasser, les déjections des ruminants. Un quart de la population mondiale, aujourd'hui, n'a pratiquement que ça comme source d'énergie. Après ces 10%, vous avez 2,3% qui viennent de l'hydraulique. Et toutes les énergies renouvelables sexy, celles qui ont un grand développement et un grand potentiel, aujourd'hui, ne constituent encore que moins de 1% de l'approvisionnement mondial en énergie. Le nucléaire, à côté de ça, il a une place raisonnable mais modeste d'un peu moins de 6%. Pour régler la question, j'allais dire, des gaz à effet de serre, il faut savoir que les spécialistes du climat ont lancé un espèce de message aux gouvernants en leur disant « Si vous ne voulez pas prendre des risques déraisonnables, il faut être capable d'avoir stabilisé la concentration de gaz à effet de serre dans notre atmosphère dans ce siècle qui vient. » Et pour ça, il faut être capable, avant 2050, d'avoir divisé par deux les émissions de CO2, qui est le principal gaz à effet de serre, tout en doublant la production d'énergie à cause du développement, et il faut s'en réjouir, des grandes économies émergentes. Alors, diviser par deux le CO2 tout en doublant la production d'énergie, c'est d'autant plus difficile que je vous rappelle qu'aujourd'hui, 80% de notre énergie dans le monde, c'est brûler du pétrole, brûler du charbon, brûler du gaz, et envoyer tout dans l'atmosphère. Il n'y a pas une solution. Il va falloir mettre en œuvre absolument tout ce qu'on sait faire et peut-être des choses qu'on ne sait pas encore faire aujourd'hui mais qu'il faudra bien réussir à faire un jour. Je suis persuadé que la moitié de la réponse ne peut venir que d'une maîtrise de la demande. Ce n'est pas uniquement en augmentant sans arrêt la production qu'on s'en sortira, ça me paraît très clair. Alors le nucléaire là-dedans, qu'est-ce que ça représente? En termes de production, la France se situe au deuxième rang derrière les États-Unis. qui concerne le pourcentage d'électricité produite par les différents pays. Bon, la France est assez haute, effectivement, avec, suivant les années, entre 74 et 78%. Mais vous voyez qu'il y en a pas mal qui sont largement au-dessus de 30%. L'énergie nucléaire, c'est d'abord la technologie la plus récente. Même le photovoltaïque existait avant. Et je ne parle pas, évidemment, des moulins à vent. Donc, elle n'a que 57 ans. C'est en juin 1954 que le premier réacteur électronucléaire, proprement dit, a été rattaché au réseau. Et ça se passait en Union soviétique, effectivement, à Obninsk. C'est seulement 2 années plus tard, en gros, qu'on a fait la même chose de l'autre côté du rideau de fer. 2600 milliards de kilowattheures, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est en gros la production de tous les barrages électriques du monde. Alors, il y a 4-5 ans, un peu partout dans vos journaux, vous avez pu voir parler de renaissance du nucléaire, second souffle du nucléaire. On envoyait les prémices, mais il s'est passé, comme vous le savez, le 11 mars 2011, un accident qui, forcément, a amené à réenvisager l'état actuel du nucléaire et ses perspectives. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dans tous les pays, quels sont ceux qui ont décidé d'arrêter des centrales en marche? Ben, il y en a un, c'est l'Allemagne. Quels sont ceux qui ont décidé d'arrêter les projets? Il y en a 4, le Japon, l'Italie. Alors l'Italie, il faut savoir, avait arrêté complètement tout son programme en 87. Et puis pas progressivement, ils avaient arrêté du jour au lendemain. Arrivé 2009-2010, ils commençaient à dire, bon, ben, c'était pas une si bonne décision que ça, on va sans doute recommencer le nucléaire. Le lendemain de Fukushima, enfin un mois après, référendum, et non, on recommence pas. La Suisse avait eu un moratoire, là encore, pendant longtemps, s'apprêtait à relancer des projets, et pour l'instant a commencé par dire, on n'en relance pas. Puis après, ils ont dit, si on en relance, en tout cas, il faudra que ce soit des centrales très sûres. Taïwan a 2 réacteurs encore en cours de construction. Ils vont les terminer, mais ils ont dit plus de projets après cela. Et tous les autres pays ont décidé de continuer. Alors pas de continuer sans rien faire. De continuer en faisant notamment ces évaluations complémentaires de sûreté, donc c'est ce que l'Europe appelle les stress tests, c'est-à-dire pour prendre en compte ce qu'on n'avait pas bien pris en compte jusqu'ici.
Le magazine du samedi, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Dis-moi un peu à quoi je sers sur cette terre. Je me pose souvent la question, car moi je ne sais rien faire. Oh, sainte mère, est-ce une profession? Alors je danse et bricole de 3 mots au bord de l'eau. D'accord, et ravistole quelques bémols sans savoir le vrai du faux. Je mets un peu de blues, un peu d'âme, de tremble d'une envie de bonheur, un peu de soul et je m'enfame. Pour une vie de toutes les couleurs, juste un peu de blues, un peu d'âme. Je redonne mes notes et mes humeurs. Toi mon amour qui m'accompagne, de ville en ville, de cœur en cœur. J'ai jamais su marcher tout droit sur cette terre. Je prends des chemins enlacés, souvent laisser le choix. Oh, sainte mère, d'apprendre à me tromper. Alors je prends le temps, m'abandonne à ma dose de soleil. D'accord, et m'endors à la belle étoile. Sur ma ligne de vie, je veille. Je mets un peu de blues, un peu d'âme, de tourner d'une envie de bonheur, un peu de soul et je m'enflamme. Pour une vie de toutes les couleurs, juste un peu de blues, un peu d'âme. Dans mes notes et mes humeurs, toi mon amour qui m'accompagne, de ville en ville, de cœur en cœur. Je ne roule pas sur des rails, je m'attarde sur les détails, si vous le voulez. Oh, j'ai mes combines et mes ficelles, interrompre même pas Manuel. Mais moi je voudrais juste un peu de blues, un peu d'âme. De trois notes, une envie de bonheur. Un peu de soul et je m'enflamme. Pour une vie de toutes les couleurs. Oh, je ne roule pas sur des rails, je m'attarde sur les détails. Si vous le voulez, ne voulez pas de me.
de l'âme, un peu de soul, et je m'enflamme de ville en ville et de cœur en cœur. Et avec toi, oui, mon amour qui m'accompagne pour cette vie de toutes les couleurs.
Retour à la Tour de la Liberté de Saint-Dié dans ce débat après Fukushima. Quel avenir pour le nucléaire? En première partie de ce magazine, vous avez pu entendre l'exposé de Christian Barré, un état des lieux fait par ce spécialiste du commissariat à l'énergie atomique. Place désormais à l'échange d'arguments et d'opinions, à commencer par Yann Verling. Entré dans le monde de l'écologie en 1988, il a été porte-parole national des Verts. Il est aujourd'hui le porte-parole du MoDem.
Sur le débat qui nous anime, j'ai un petit peu du mal à considérer que si on ne parle que du nucléaire, on aurait parlé de la question énergétique en soi. Non, les chiffres en France, en tout cas, doivent être rappelés quand même. C'est que les trois quarts de nos besoins énergétiques sont pourvus par autre chose que de l'électricité. Et que c'est 25-24% aujourd'hui de nos besoins d'énergie qui sont fournis par l'électricité. Et que dans l'électricité, le nucléaire, ça n'est encore que 75%. C'est-à-dire que si vous faites un peu de calcul mental, vous êtes à 18%. Aujourd'hui, le nucléaire fournit 18% de nos besoins énergétiques. Donc, en ne parlant que du nucléaire, on n'a pas du tout réglé le problème énergétique qui est devant nous. Et je trouve que sur les trois quarts restants, et en gros, les chiffres, c'est que 70% aujourd'hui de nos besoins énergétiques sont fournis par les énergies fossiles, le gaz, le pétrole, le charbon, principalement le gaz et le pétrole. C'est des problèmes au moins aussi épineux, si ce n'est plus épineux à gérer pour l'avenir. La masse de la chose à traiter, c'est ces 70% qu'il va falloir réduire. C'est beaucoup plus important que les 18% dont on parle depuis deux semaines et dont on parle ce soir. Donc les ordres de grandeur sont quand même très importants à intégrer dans la politique énergétique que notre pays doit conduire dans les années à venir. Tout aussi épineux, ce problème des énergies fossiles, parce que ceci pose des problèmes d'argent et des problèmes environnementaux. D'argent parce que les énergies fossiles, comme vous le savez, augmentent régulièrement. Les courbes sont tout le temps en train de monter. Vous le savez tous, j'espère que vous n'êtes pas tous dans cette situation, mais que beaucoup de gens aujourd'hui ont du mal à payer leurs factures énergétiques, ont du mal à faire le plein d'essence, et que ceci ne va aller qu'en s'aggravant. Et que, encore une fois, on peut délaisser ce pan entier du problème énergétique. Ce serait une grave erreur que de le faire. Puis il y a des problèmes environnementaux avec les énergies fossiles, comme vous le savez. On a des engagements de réduction des gaz à effet de serre. On ne les réduit pas, ces gaz à effet de serre, ces émissions. La banquise continue de fondre. Je ne vais pas développer sur un autre sujet qui n'est pas forcément celui de ce soir, mais la situation est relativement grave en termes de réchauffement climatique. On n'a absolument pas réussi à tenir les engagements et on n'est pas sur la voie de les tenir en matière de réduction des gaz à effet de serre et de limitation des hausses de température sur la planète. L'obsession de celui qui doit décider sur les questions énergétiques dans notre pays, ça doit être de se dire que si, la question simple, si on a les moyens, les solutions pour réduire notre recours au nucléaire et notre besoin en énergie fossile, si on a ces solutions, est-ce qu'on y va à fond ou pas? Et pour moi, la réponse, elle est oui, on y va à fond. Et donc, la question du coup derrière, c'est quelles sont les possibilités, quels sont les moyens qu'on se donne pour aller dans cette direction. Donc le débat augmenté, baissé, arrêté, j'ai presque l'impression aujourd'hui, et même autour de cette table, j'ai presque l'impression aujourd'hui que le consensus se dessine sur baissé.
Monsieur Pierret, baisse globale des consommations d'énergie.
Oui, je remercie Monsieur Verling. Nous avons beaucoup plus de points d'accord qu'il n'y paraît. C'est celui de l'économie d'énergie. Le meilleur mégawatt, c'est ce qu'on appelle le négawatt. Les méthodes de construction des bâtiments. La capacité, on l'a prouvé à Saint-Dié, je sais qu'ici, il y a le promoteur de ces HLM qui économisent l'énergie, voire même qui peuvent être positifs, c'est-à-dire produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Nous sommes les premiers à Saint-Dié-des-Vosges à avoir un système de logements sociaux qui ont cette caractéristique. Donc c'est la vraie problématique est en effet de moins consommer d'énergie, plus exactement d'augmenter l'efficacité énergétique. c'est-à-dire de moins consommer d'énergie par unité de produit de PIB produite. D'accord ? En attendant, il faut qu'on parle de la même chose. Quand on parle du nucléaire ou de l'éolien, on ne parle pas des mêmes périodes, des mêmes quantités. On distingue dans l'électricité la base qui ne peut pas être satisfaite par les énergies nouvelles renouvelables actuelles, car elles ne peuvent pas en produire assez. La base, c'est la quantité d'électricité minimum qu'il faut en toute période du jour et de la nuit pour satisfaire les besoins du fonctionnement social. La base, aujourd'hui, ne peut être satisfaite que de deux manières, soit par l'électricité nucléaire, soit par l'énergie fossile. Si on choisit l'énergie fossile, comme c'est le cas du Danemark, précisément, dont on voit dans les films les éoliennes en mer, et dont on ne sait pas que c'est un des pays les plus polluants d'Europe. Pourquoi ? Sa production d'électricité est à 50% faite par des centrales au fioul. En France, chacun d'entre nous envoie dans la stratosphère 2,1 tonnes de carbone pur. Le japonais, avant l'accident, en envoyait 2 tonnes. Le suédois, 1,8 tonnes. Le plus vertueux du monde, c'est le suédois. La moyenne européenne est à 2,4. Et les pays qui se présentent comme les plus vertueux parce qu'ils ont soi-disant fait appel beaucoup, et c'est vrai pour le Danemark d'ailleurs, aux énergies nouvelles renouvelables, en l'occurrence l'éolien, sont en même temps les pays qui oublient de vous dire que pour la production de base ou de semi-base, ils sont extrêmement polluants. Et là, je voudrais dire un mot. Je ne voudrais pas être polémique, et le ton n'est pas du tout polémique entre nous ce soir, mais je considère que l'Allemagne est devenue un pays extrêmement dangereux en matière énergétique. D'abord, elle vient de publier et de décider un plan de construction de 40 centrales au charbon. Ce qui ne me paraît pas être la meilleure des solutions pour produire de l'électricité en base en remplaçant le nucléaire. Car on va ainsi remplacer une énergie, une production d'énergie qui n'émet pas du tout de gaz à effet de serre par une énergie extrêmement polluante. Non content de faire cette politique suicidaire et dogmatique, car il n'y a pas d'autre mot, l'Allemagne a ouvert en plein milieu de la Ruhr une mine à ciel ouvert de lignite, qui est une sorte de sous-charbon, qui lui contient beaucoup de soufre et dont la combustion produit encore plus d'acide sulfurique que le charbon. C'est vrai qu'en Allemagne, il y a 28 000 mégawatts installés, ça veut dire l'équivalent de 28 tranches nucléaires, 28 000 mégawatts installés d'éolien, c'est vrai, mais c'est intermittent, ça ne peut pas remplacer la production en base nécessaire en tout temps, toute heure, jour et nuit, ça ne peut qu'être une énergie d'appoint qui dépend des systèmes de vent, et certains sont réguliers, d'autres ne le sont pas, et qui dépend aussi de l'acceptation des gens, parce qu'il faut en parler, sur leur paysage.
Cocktail FM. Cocktail FM. La radio des Hauts-de-Vosges.
I'm a Madonna, dying in the night.
Retour à ce magazine spécial Avenir du nucléaire, débat à Saint-Dié-des-Vosges en compagnie de Christian Barré, ancien du CEA, commissariat à l'énergie atomique, conseiller d'Areva, Yann Verling, ancien porte-parole des Verts et actuel représentant du MoDem, et Christian Pierret, maire de Saint-Dié, président de la Fédération des maires des villes moyennes, mais aussi ancien ministre de l'Industrie. Christian Pierret, qui décidément n'est pas content du tout des décisions prises par l'Allemagne.
Qu'on ne nous sorte pas, par pitié, la politique énergétique allemande. Elle est dangereuse, elle est même criminelle, car elle va provoquer des milliers, des dizaines de milliers de maladies, notamment dans notre pays, par une irresponsabilité totale de rétablir une énergie fossile, certes qu'on trouve partout, puisqu'il y a du charbon partout dans le monde, avec des réserves qui font plusieurs siècles, on peut encore s'empoisonner pendant plusieurs siècles, mais en attendant, on envoie dans l'atmosphère des choses qui mettront aussi plusieurs centaines de siècles à disparaître, c'est-à-dire la gangue qui entoure la Terre et qui provoque l'effet de serre. Donc il faut être clair, il faut refuser cette espèce d'antipolitique qui est la politique énergétique allemande.
Monsieur, dans le public.
Merci de donner la parole quelques instants. Ce choix du tout nucléaire, quand même dans les années 70, a eu quand même des conséquences relativement importantes. Et je dis que notre politique nucléaire, je pose la question, n'a-t-elle pas été un frein quand même, un frein objectif et un frein total au développement des énergies renouvelables?
Une réponse très claire. On a encouragé en France, et on encourage en France encore aujourd'hui, les énergies nouvelles renouvelables. Le meilleur exemple, je vous prie de m'excuser, c'est pas pour faire le malin que je dis ça, c'est l'arrêté Pierret, signé en 2001, qui a obligé EDF d'acheter l'énergie éolienne produite à l'époque par très peu d'éoliennes. On devait avoir moins de 500 MW installés. Aujourd'hui, j'ai donné le chiffre tout à l'heure, on doit être autour de 9500, un peu moins de 10 000 MW installés. J'ai rappelé que c'était le tiers de l'Allemagne. L'Allemagne en a 28 000, nous 10 000. Donc on est passé de 500 à 10 000, à peu près, j'arrondis, hein, en 10 ans. Pourquoi ? Parce qu'on a encouragé, on a obligé EDF à acheter plus cher le courant. Ainsi, l'investissement dans l'éolien devient rentable. Mais on peut faire d'autres développements. Par exemple, il y a la biomasse qui peut être utilisée.
C'est la question de monsieur. Donc les déchets, l'avenir de ces fameux déchets nucléaires.
Donc aujourd'hui, vous savez, quand un combustible
Bertrand Barré
a terminé de produire son énergie dans une centrale, on l'envoie dans l'usine de La Hague où on récupère l'uranium et le plutonium pour en faire des nouveaux combustibles et où on transforme en blocs de verre les déchets, c'est-à-dire les produits de fission et quelques noyaux plus lourds qui ont été aussi produits dans le réacteur. En faire un bloc de verre, c'est ce qui se fait à Baccarat sans arrêt quand on met un peu de plomb pour faire un joli cristal. Quand ça se casse, le plomb part pas. Pourquoi du verre ? Ben justement parce que ça a deux caractéristiques. Le verre n'est pas très soluble. Deuxièmement, le verre justement n'a pas de structure cristalline, donc il peut absorber tous les types de déchets de la même façon. Alors ces blocs de verre, la loi a été passée par le Parlement à une énorme majorité en juin 2006 dit on va les mettre, quand ils seront suffisamment refroidis à la surface, on va les mettre dans un stockage qu'on aura construit dans une couche géologique qui est à peu près à 500 mètres en chiffre rond, qui a été stable depuis 155 millions d'années à peu près. Pourquoi ? Parce que dans l'argile, il y a très peu d'eau. Et cette eau ne bouge pas. Quand on dit qu'il n'y a pas de solution au problème des déchets, oui, il y en a une, mais encore faut-il, effectivement, qu'on passe, parce qu'on est heureusement dans un pays démocratique, par l'acceptation de la communauté locale du trou qui permettra d'atteindre cette couche à 500 mètres sous terre.
Mais comme nous arrivons doucement, mais sûrement au terme de ce magazine, les conclusions des protagonistes, à commencer par Yann Verling.
Moi, je peux vous assurer que, pour avoir suivi ces questions depuis longtemps, le fait d'abord de remettre en cause le nucléaire dans notre pays est déjà une chose extrêmement nouvelle. Ce vers quoi on doit aller, et je forme le souhait que les autorités publiques changent de point de vue sur ça, c'est qu'on laisse enfin les choses se faire en matière d'économie d'énergie et de développement des énergies renouvelables. Parce que les crédits de recherche, notamment, sont essentiellement axés aujourd'hui sur le nucléaire. Il faut que tout ça se rééquilibre. Il faut qu'on laisse aujourd'hui les choses se développer. Et je vais vous dire, et même si on était dans une vision peut-être libérale, pour utiliser un gros mot en France, parce que c'est un gros mot en France, les visions libérales, sur des strictes questions de libre manière de voir les choses. Faisons ce qui est le plus efficace, faisons ce qui est le plus économique, faisons ce qui est le plus qui peut rapporter le plus finalement en termes de rapport investissement-coût. Je vous assure qu'on arriverait très rapidement à des solutions d'économie d'énergie et de développement des énergies renouvelables très très rapidement.
Merci Yann Verling. Bertrand Barré, s'il vous plaît. Alors donc même question. Quel avenir après Fukushima ?
La question de l'avenir du nucléaire après Fukushima, ce n'est pas tellement en France qui se passe. L'avenir du nucléaire, il est en train de se passer en Chine, en Inde, en Russie, au Japon. Et globalement, qu'est-ce qu'on voit ? Le nucléaire va continuer à se développer. Que la France décide d'en faire moins ne changera rien. Ce n'est pas là où ça se passe. Ça se passe dans les grandes économies qui sont en croissance et qui ont des besoins d'énergie. Nous, on est des riches. De ce point de vue-là, eh ben, avec du recul, je peux vous dire, Fukushima n'arrête pas la croissance du nucléaire dans le monde.
Monsieur Perret, donc toujours cette question, quel avenir pour le nucléaire ?
Bien, moi, je crois que c'est très simple. Étant par ailleurs conseiller d'un des candidats à la présidence de la République sur ces questions, je peux dire ceci de très simple. Je pense que la part du nucléaire à 74-78% va avoir tendance à baisser. À mesure, comme l'a dit tout à l'heure M. Verling et M. Barré, que la technologie va évoluer et que les énergies nouvelles renouvelables seront premièrement crédibles et fiables, deuxièmement d'un prix abordable, ce qui n'est pas le cas pour toutes aujourd'hui, et troisièmement à mesure que nous réaliserons un objectif de changement de société, comme un intervenant l'a dit tout à l'heure, à savoir une économie moins dépensière en termes d'énergie. La part de l'énergie nucléaire va toujours être prédominante pendant de très longues années, mais elle va avoir tendance relativement à baisser. Donc notre mix énergétique va naturellement évoluer vers de plus en plus de renouvelables, de moins en moins de nucléaire, mais surtout vers de plus en plus d'efficacité économique et d'économie d'énergie.
Trois hommes de bonne volonté qui ont décidément trouvé quelques atomes crochus. Ainsi s'achève ce débat qui s'est tenu donc hier soir à la Tour de la Liberté de Saint-Dié, partenariat avec la rédaction de Cocktail FM et de l'association Espace 88 qui l'organisait. Dans un instant, d'autres informations nationales et internationales. Il y a de grandes chances qu'on y parle encore un peu de nucléaire. Prochain rendez-vous avec l'information locale, Jean-Yves Guillet, l'édition de la mi-journée, 12h30. Excellent week-end.